Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. Claire Tiercelin vous retrouve aujourd'hui pour la demi-heure mensuelle de l'association Église ouverte en Eure-et-Loire. Nous n'allons pas parler d'église, mais de clochers, et plus spécialement des clochers de Chartres. Pour cela, j'ai invité M. Patrick Géroudet, adjoint au maire de Chartres, à la promotion de la ville, au tourisme et au patrimoine. Monsieur Géroudet, bonjour. Vous êtes également membre de notre association Église ouverte en Eure-et-Loire. Je suis heureuse de vous accueillir à double titre. Si nous évoquons ce thème aujourd'hui, c'est qu'un ouvrage a été édité fin décembre 2015 sur les clochers de Chartres et que vous avez collaboré à sa réalisation. Monsieur Géroudet, pourquoi cet ouvrage ?
Donc, merci, bonjour à tous. C'est vrai que cet ouvrage prend place dans une collection. C'est le troisième ouvrage que publie la ville de Chartres sur son patrimoine, après le patrimoine vivant que nous avions publié il y a une dizaine d'années, puis le chemin de mémoire pour remémorer les grands hommes de notre ville. Aujourd'hui, on a publié ce troisième ouvrage qui est sur les clochers dans le ciel de Chartres. En effet, Chartres a eu longtemps une vocation d'une ville avec de nombreux clochers. On l'a appelée la ville aux 100 clochers, mais d'autres villes ont eu son nom comme Rouen ou d'autres. Mais ça montre quand même l'importance du christianisme dans notre ville, mais personne n'en doute. Et c'est un peu, ce livre est un peu dans l'esprit d'Église ouverte en Eure-et-Loire, qui fait des fiches par église que vous pouvez retrouver dans vos églises, dans la plupart des églises maintenant en Eure-et-Loire. Et c'est un peu ce principe que j'ai voulu apporter aux Chartrains, de voir dans leur quartier qu'ils ont un vrai patrimoine et que ce patrimoine important, et souvent dans le quartier le plus important, c'est le clocher, l'église. Et bien sûr, à Chartres, on en a une prestigieuse, la cathédrale, qui est évoquée bien sûr dans cet ouvrage, puisque les deux clochers de la cathédrale sont parmi les plus hauts de France, et en particulier le clocher sud, roman, qui a été longtemps le plus haut clocher du monde connu à l'époque occidentale, mais je ne pense pas qu'il y en avait ailleurs dans le monde. Donc on a voulu montrer que Chartres n'avait pas comme clocher que cette cathédrale, qui est bien sûr au patrimoine mondial et reconnue. Il y a une vraie richesse patrimoniale à Chartres, et cet ouvrage, je pense, révèle des endroits que les Chartrains ne remarquent pas forcément, et les touristes encore moins. Donc le but, c'est aussi de montrer aux Chartrains qu'ils doivent être les ambassadeurs de leur ville, et montrer que les clochers existent un peu partout dans la ville, et ont des lieux de culte un peu partout dans la ville. Certains ont été bien sûr repris pour d'autres activités que le culte chrétien, mais il n'en demeure pas moins que ce sont des lieux encore rempli de cette présence pendant des siècles. Par exemple, Saint-Aimant, qui était au cœur d'un couvent, est maintenant un lieu de présentation de la mosaïque contemporaine. Le prieuré Saint-Vincent est un lieu d'expression d'art contemporain. Ou la collégiale Saint-André, qui a failli disparaître, en tous les cas, déjà la sacristie qui est au sud de la rue du Massacre, le chœur qui était au sud de l'Eure ont disparu au XIXe siècle, faute d'entretien, et la collégiale elle-même était très abîmée, elle a été transformée en différentes activités, avant que la ville ne la rachète au XXe siècle, et en fasse un lieu culturel aujourd'hui bien connu des Chartrains, et de plus en plus des touristes qui descendent en basse ville. Et là, le clocher n'existe plus. Vous avez l'amorce du clocher. Mais à l'origine, il y avait aussi un clocher haut sur cette église, cette collégiale. Donc, il y a d'autres églises aussi importantes comme Saint-Martin-au-Val. D'ailleurs, nous l'avons mis en couverture de l'ouvrage parce que c'est un lieu où la ville, depuis 6 ans, a rénové complètement la charpente et la toiture pour bientôt l'ouvrir au public. Donc c'est un lieu, en plus le premier lieu chrétien, donc il sera de nouveau une église affectée au culte catholique, parce que c'est important, c'est le premier lieu avec cette belle église basse du haut Moyen-Âge et qui mérite vraiment la visite. Donc j'espère une ouverture rapide, au moins cette année, une journée ou deux on essaiera de l'ouvrir parce que les Chartrains sont impatients de revoir cette église qui a été fermée pour des raisons de sécurité il y a de nombreuses années, je dirais 10-15 ans maintenant facilement, et donc qui mérite vraiment une attention toute particulière.
Alors Monsieur Géroudet, sur ces une centaine de clochers qui ont été érigés au fil des années, peu de clochers subsistent maintenant dans Chartres.
C'est vrai, c'est ça qui est tout à fait remarquable. Heureusement que la cathédrale a été sauvée à la Révolution, puisqu'elle a été classée comme monument national à protéger, c'est un peu déjà la notion de patrimoine mondial, pour son exemple exceptionnel. Donc il y a eu une quinzaine de monuments en France qui ont été protégés pour les grandes époques de la pensée humaine en France. Mais la volonté de cette, je peux me permettre de dire, cette religion laïque, était quand même, au plus fort de la Révolution, de détruire toutes ces églises, que ce soit des couvents ou des églises de paroisse. Et Chartres en a eu beaucoup de destructions. Je ne vais pas tout vous énumérer, parce que vous en retrouverez beaucoup dans l'ouvrage, mais on peut penser à Saint-Saturnin. Il y avait une église sur la place Marceau, où s'érige aujourd'hui la colonne de Marceau avec le cœur de Marceau au sommet. Aujourd'hui, on n'en voit plus rien. Il y avait aussi un petit campanile à côté qui a complètement disparu. Je pense à Saint-Hilaire aussi, à côté de Saint-Pierre, puisque l'église Saint-Pierre n'était pas une église paroissiale, c'était l'église de Saint-Père-la-Vallée, une abbaye célèbre à travers le monde entier. Saint-Hilaire, aujourd'hui, vous n'en voyez plus rien. Elle est pratiquement disparue. Elle était sur la place Saint-Pierre. Et des éléments, par contre, là, ont été récupérés en grande partie pour reconstruire l'église de Sourds, qui avait beaucoup souffert d'orages violents en 1788.
On a récupéré des pierres de Saint-Hilaire
tout à fait,
pour aller à Sourds.
Des colonnes, autels, différents éléments ont été réutilisés à Sourds. Donc là, bon, c'est comme ça.
C'est une bonne réhabilitation.
Voilà, et les vitraux sont largement, ont été aussi récupérés. C'est des très beaux vitraux du XVIe siècle qui sont présentés en permanence au rez-de-chaussée du Centre international du vitrail. C'est une collection que la ville de Chartres a confiée au CIV et qui sont de toute première facture, toute beauté pour le XVIe siècle, que l'on a peu à Chartres en matière de vitrail, puisque Chartres a bien sûr toute l'histoire du vitrail en fait, et ça qui est remarquable aussi à Chartres, préservé, avec la cathédrale, avec des vitraux les plus anciens de 1140 environ, puis les grandes verrières du XIIIe siècle, et puis le XIIIe, XIVe avec Saint-Pierre, qui est tout à fait remarquable, et donc le XVIe avec Saint-Hilaire, ce qui a été récupéré de ces beaux vitraux XVIe, et à Saint-Aignan aussi. Pensez que pendant la Révolution, on a failli mettre à Saint-Aignan une prison, parce que les prisons étaient trop pleines, et avec l'histoire de la bande d'Orgères, par exemple, on a dit il faut trouver une solution, on va transformer cette église, qui n'était plus affectée au culte, à faire une prison. Ça aurait certainement beaucoup détruit les Saint-Aignan, je ne sais pas si elle aurait retrouvé facilement sa vocation d'église paroissiale.
Alors puisqu'on parle de prison, la prison de Chartres, qui n'est plus prison depuis un an, était également un couvent. On peut imaginer qu'on avait peut-être un clocher sur ce couvent qui est devenu prison, peut-être.
Tout à fait, c'était un couvent important, c'était le Carmel de Chartres, et on voit toujours l'emplacement du cloître qui est dans la prison, et la chapelle et la salle d'audience du tribunal de grande instance. C'est là aussi, oui, c'est une réutilisation d'un lieu par le nouveau propriétaire. Et il y a d'autres couvents qu'on ne voit plus du tout. Les petites filles Dieu, les grandes filles Dieu, tout ça sont des noms de couvents qui existaient encore jusqu'à la Révolution, pratiquement.
Donc il ne reste que, on les connaît simplement par le nom des rues, c'est tout.
Oui.
Mais on n'imagine pas qu'il y avait des couvents à ces endroits-là.
C'est vrai. Et je pense que c'est important, justement, les noms des rues, de maintenir ces noms, parce qu'ils évoquent le passé de notre ville. C'est un peu ce devoir de mémoire que nous avons vis-à-vis de nos ancêtres. Il y a aussi une très belle réalisation, c'était le couvent des Cordeliers, qui avait été déplacé du Grand Faubourg, où là il ne reste plus que des ruines, donc à l'ancien lycée Marceau, qui est maintenant le conservatoire départemental de musique et de danse. Et de l'autre côté, on a encore l'hôtel des Cordeliers. Et entre les deux, il y avait l'église. Vous voyez plus ce clocher, les coëtements, c'était devenu une propriété privée que la ville a rachetée pour faire un cheminement, mais il n'y a plus que le portail rue Saint-Michel, et puis on voit le mur qui était contre le cloître, mais tout a disparu. C'est vraiment le type même de la destruction qui a été faite à la Révolution pour abattre l'idée religieuse, en fait. Bon, chaque idéologie existe et défend ses idées, mais c'est vrai que là, ça a été un vrai massacre dans la ville de Chartres, comme ailleurs. Dans les villages, ça a été un peu différent parce qu'il n'y avait qu'une église, en général. S'il y en avait plusieurs, je pense que l'autre a été détruite. Mais quand il n'y avait qu'une église, elle a quand même été conservée. Puis, en plus, c'était plus facile parce que la population rurale était moins... Enfin, dans nos régions, en tous les cas, moins hostile que pouvait être dans la ville où il y avait beaucoup plus d'agitation.
Bien sûr.
Et donc, en général, les villages ont gardé leur église. Mais dans les villes, les destructions étaient très importantes, ou dans les campagnes pour les grands couvents. Bon, là, je pense à Cluny, c'est une carrière à ciel ouvert pendant 50 ans jusqu'à Prosper Mérimée. Enfin, c'est dommage de penser à ces destructions. Aujourd'hui, on a encore le plus grand nombre de touristes au monde qui viennent en France, et près de 3 millions à Chartres. Mais ça sera encore incroyable. On a du mal à imaginer tout le patrimoine qui a été détruit, en fait, dans cette grande bourrasque révolutionnaire. Donc à Chartres, il y en a d'autres aussi, comme Saint-Martin-du-Vivandier. Vous imaginez, quand vous passez place Saint-Étienne-d'Orbe, ça suffira.
Oui.
Je pense à Saint-Martin-du-Vivandier, qui est là. On ne voit plus que quelques éléments. Que d'ailleurs, dans la rénovation de la rue qu'on a fait piétonne, on éclaire quelques éléments de l'ancienne église. Et puis, il y a encore la crypte, puisque c'est les parties visibles qui ont été détruites. Oui. Mais c'était vraiment une des églises paroissiales les plus importantes. C'était l'église des commerçants de Chartres. Oui. Et maintenant, vous ne la voyez plus. Oui. C'est un peu aussi ce devoir de mémoire que le député maire, Jean-Pierre Gorge, et moi-même, on a voulu mettre en valeur dans ce petit livre que nous avons, qui a été offert à tous les Chartrains.
On n'imagine pas qu'il y avait une église place Étienne d'Orves, entre la cathédrale et Saint-Aignan, à deux pas.
Oui, mais il y en avait beaucoup d'autres.
Et oui.
Il y en avait une à l'ombre Saint-Nicolas, dans le jardin de l'évêché. Ouais. Il y avait la chapelle, qui existe toujours dans l'évêché lui-même. Oui. Il y en avait une autre de l'autre côté, Saint-Étienne, au bout de l'esplanade du jardin de l'évêché. Oui. Là, c'est maintenant une petite chapelle dans la rue Saint-Aimant, rue des Acacias. Mais donc là, je prends juste ce petit secteur. Mais en bas des jardins, vous aviez le couvent des Minimes. On voit encore le mur du cloître et l'entrée et le portail qui donne sur la collégiale Saint-André. Quand vous faites le tour de Chartres, vous en voyez partout, en fait, des monuments qui ont été malheureusement détruits.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel. Claire Tiercelin vous retrouve aujourd'hui pour la demi-heure mensuelle de l'association Église ouverte en Eure-et-Loir. Nous parlons aujourd'hui de clochers, et plus spécialement des clochers de Chartres, en référence à l'ouvrage édité en fin d'année 2015 sur ce thème. Avec M. Patrick Géroudet, adjoint au maire de Chartres et membre de notre association, poursuivons notre conversation sur les clochers. Monsieur Géroudet nous a dit en première partie qu'il y avait plus d'une centaine de clochers avant la Révolution. Alors, monsieur Géroudet, des clochers ont été reconstruits après le Concordat.
Oui, il y a eu une vraie re-christianisation de la France, en particulier de Chartres, au XIXe siècle. Alors, je voulais revenir sur les clochers. Quand on dit 100 clochers à Chartres, beaucoup n'étaient pas en pierre. Certains étaient en bois et donc fragiles et facilement détruits. Donc il ne faut pas imaginer quand même des monuments toujours d'une grande qualité. Et donc au XIXe siècle, de fait, les religieux et religieuses étaient partis et sont revenus. Et donc ils ont repris plus ou moins possession des espaces où ils étaient, suivant le degré de destruction. Et ils ont construit des églises intéressantes et vraiment aujourd'hui la ville veut les protéger. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans cet ouvrage, la qualité de ces constructions néo-gothiques du XIXe siècle. On en a beaucoup d'exemples dans Chartres, et on l'a aussi dans le patrimoine global de la ville de Chartres. Je pense que le XIXe siècle a construit de beaux bâtiments qui demandent à être préservés, et de beaux quartiers qui demandent à être préservés. Ce qui a été fait dans le quartier Chanzy, c'est-à-dire dans les rues Chanzy, avenue Monory, rue Monory. Et je pense qu'il y a là un devoir aussi de protection de ces constructions qu'on a souvent décriées, mais qui ont une qualité certaine de construction. Donc on retrouve ces églises dans le tissu urbain de Chartres, comme aux Jubelines, au Carmel, ou à Sainte-Élisabeth, même près de Saint-Brice. Voilà encore une église qui a été détruite, l'église qui était à Saint-Brice. Aujourd'hui, l'église paroissiale est maintenant Saint-Martin-au-Val, mais qui était en fait dans une abbaye. À côté, il y avait une petite église qui a disparu.
Donc elles étaient face à face.
Très proches en fait. C'est oui. ça qui est drôle, mais parce oui. qu'on a le même phénomène oui. à Saint-Pierre. Oui. On avait Saint-Hilaire, oui, Saint-Hilaire et Saint-Père-la-Vallée oui. juste à côté. Là, on avait Saint-Brice et une grande église. Et en fait, l'église du monastère était plus importante que l'église de la paroisse.
D'accord. Il y avait beaucoup de religieux ou de religieuses dans les couvents à cette époque-là.
En fait, oui, c'est certainement la raison pour laquelle ils avaient oui. besoin de oui. si grandes nefs. On le retrouve aussi un bel exemple au collège Jeanne d'Arc, qui était un couvent. Et un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est à Bon Secours. On a une belle église aussi de la fin 19e qui a été construite. Et puis les Sœurs de Saint-Paul aussi, qui ont une belle église que l'on voit très bien de la rue Murée.
Avec un très beau clocher.
Un très beau clocher, hein, 19e, mais c'est vrai que c'est un
oui,
clocher qui domine la
clocher.
Ville.
Ah oui, oui,
oui c'est vrai, Claire. Et donc il y a quand même toute cette ambiance a permis, de, pareil, Notre-Dame de la Brèche, dans la rue de la Brèche, qui a été construite aussi au 19e, une petite église d'abord, la petite chapelle mémoire, si on peut dire, et puis à côté, après, ils avaient agrandi avec cette partie à droite de la petite chapelle, qui est maintenant une église aussi paroissiale. Bah, en fait, elle était proche aussi de Saint-André. Donc, ça a été certainement un besoin, comme Saint-André n'a pas été remise au culte après la Révolution, d'avoir une église paroissiale dans ce quartier. Et donc, c'est à tout cet ensemble de bâtiments est important, je pense, pour l'ambiance de la ville, parce qu'ils s'intègrent très bien. Alors, bien sûr, ils ne sont pas du Moyen-Âge ou du XVIe siècle, mais ils s'intègrent très bien. Et c'est tout un ensemble, en fait, de promenades que je suis sûr que le touriste aura plaisir à faire dans nos rues. À la fois, ils auront ces maisons du XVe siècle et puis tous ces lieux de clochers et d'églises qui sont très intéressants à voir.
Alors, Monsieur Géroudet, avec l'urbanisation des quartiers à Chartres, nous pouvons évoquer maintenant le patrimoine religieux du XXe siècle.
Oui, c'est vrai, maintenant, les siècles passent, mais l'homme construit toujours. Et ce patrimoine du XXe siècle est propriété du clergé. Donc, c'est tout à fait remarquable, parce qu'il y a des très belles constructions qui sont financées par les fidèles. Donc, je pense naturellement à
Rochèvre, par exemple.
Rochèvre, qui est un très bel exemple, Saint-Jean-Baptiste de Rochèvre. Maintenant, qui est à la tombe de Franz Stock, mais enfin, à l'origine, ce n'est pas prévu. Et donc, il y a aussi un projet de campanile à côté.
Ah, oui.
Donc, la notion de clocher est toujours présente, même dans notre XXe siècle. Donc, il n'a pas été réalisé, mais on a des très beaux vitraux de Max Saint-Grand, ce qui complète l'idée de Chartres capitale du vitrail. Et puis, une ambiance aussi dans un quartier. Je pense aussi à l'église Place Jeanne d'Arc, dans le quartier, enfin, c'était la place Nicochet, au Grand Faubourg, qui est un beau tympan intéressant, maintenant qu'il y a un petit parvis devant, puisqu'on a fait une zone piétonne et un square. Et j'invite le visiteur à regarder de plus près. Moi-même, avant de faire ce petit livre, je ne l'avais pas remarqué. Dans le tympan, vous avez deux bombardiers américains.
Ah bon?
Pourquoi?
Oui.
Donc c'est parce que pendant la guerre, ce quartier n'a pas reçu de bombes et donc a été protégé par Jeanne d'Arc, par qui vous voudrez, mais au moins ils ont voulu le marquer dans le tympan.
Et le quartier de la Madeleine a également son église?
Tout à fait, il y a une église dans le quartier de la Madeleine qui est intéressante. Et par contre, à Beaulieu, c'est les petits clos aujourd'hui, l'église n'a jamais été construite. C'est en fait la salle paroissiale qui a été transformée en église. Donc elle est plus simple, mais toujours présente.
Et l'église de la Brèche, est-ce qu'elle est récente ou pas?
Oui, alors l'église de la Brèche est du 19e, mais on a essayé dans ces dernières décennies de l'améliorer par des vitraux. Donc il y a des vitraux sur des cartons de Guyol et de Lejeune, Philippe Lejeune, qui ont été réalisés. Donc on a rouvert les fenêtres parce que c'était une église sombre dans la mesure où côté occidental, les murs avaient été fermés, mais après 1906. Donc l'église appartenait déjà à la ville. Donc la ville avait donc la possibilité de refaire ses vitraux, de rouvrir et de donner une ambiance plus agréable pour les fidèles de cette paroisse. Et donc on a décidé de rouvrir et faire 4 verrières côté ouest de façon à rendre cette église plus visible et avoir des cartons d'un grand maître, Philippe le Jeune, puisque il est décédé depuis, c'était le dernier élève vivant de Maurice Denis. Donc on est dans cette création artistique de grande qualité et on est content qu'il ait pu réaliser, il avait 90 ans pratiquement à l'époque, puisque les vitraux ont été réalisés en 2010, en 2011, et bien sûr sur des cartons de Philippe Jeune réalisés à Chartres dans les anciens ateliers lorrains, Juteau. Mmh. Et donc on est très content d'avoir pu réaliser ces vitraux qui donnent... Le vitrail donne quand même une chaleur dans une église. Oui. Ces verrières, vous voyez, quand on va à Amiens par exemple, où toutes les verrières sont blanches, pas cause parfaite de guerre, hein, bien sûr, elles ont existé. C'est quand même un peu une vie... Peut-être parce que je suis habitué à Chartres, où on a des vitraux partout qui existent.
On a des beaux vitraux partout.
Dans toutes nos églises. Mais c'est vrai que ça fait... Donc à la brèche, je trouvais que ça faisait dommage de ne pas avoir des vitraux aussi. Mais c'est un peu... Quand on voit ces grandes cathédrales du nord de la France, malheureusement, qui ont été martyrisées par les deux conflits mondiaux, c'est quand même pas la même ambiance. Ça fait un peu... Oh, je vais peut-être être méchant, un peu hall de gare.
Oui. Mais nous sommes très gâtés à Chartres, et si on a autant de touristes, les vitraux en sont peut-être la cause.
Exactement, oui, oui. Donc c'est vraiment bien pour ça, je crois que c'est intéressant de montrer cette diversité du vitrail à Chartres. Pareil, on a aussi une toile de Gabriel Loire au fond de la brèche, on a des vitraux des Loires dans d'autres endroits de la ville. C'est aussi une grande maison de créateurs. Les Lorrains aussi, je pense là, oui, un élément clé. J'espère qu'on pourra le montrer un jour aux visiteurs. Dans l'église Notre-Dame de Bon Secours, il y a une collection exceptionnelle de vitraux de Lorrains de l'entre-deux-guerres, abstraits. C'est la seule collection de vitraux abstraits de Lorrain que l'on connaît. Alors que vous allez à La Plata, vous avez des vitraux de Lorrain dans la cathédrale. Enfin, les artistes Maître Verrier Chartrain, qui existent toujours aujourd'hui, ont exporté l'art du vitrail chartrain partout dans le monde. Vous avez du Gabriel Loire au Chili, au Japon, et pareil pour les vitraux de Lorrain et d'autres Maître Verrier Chartrain plus contemporains aujourd'hui.
Alors, Monsieur Géroudet, on peut peut-être évoquer aussi d'autres édifices religieux non catholiques, des édifices peut-être détruits ou encore présents.
Oui, c'est une bonne question. On a donc, par exemple, les restes de la synagogue. Peu de gens le connaissent. En bas de la rue Saint-Pierre, vous avez tout à fait en bas de la rue Saint-Pierre, presque en arrivant sur la place Saint-Pierre, côté droit en descendant, l'arche, un début d'arc gothique, qui est l'emplacement de l'ancienne synagogue qui a disparu depuis bien longtemps. Et, ou bien, par exemple, vous avez aussi le temple protestant. Il a été longtemps au Potranche Fétu, mais quand ils ont eu l'autorisation sous la Troisième République de ramener leur temple en ville et ne plus être à plusieurs lieux du centre des villes, ils ont d'abord été rue du Grand Faubourg, où une plaque commémorative est notée, où ils ont été une quinzaine d'années, lors de la construction du temple protestant, donc les calvinistes, rue Saint-Thomas, qui existe toujours et qui fonctionne. Donc c'est amusant parce que dans cette étude, j'ai retrouvé des endroits que on ne remarque pas. Cette plaque, elle est en face Jiffy, enfin, vous voyez, dans la rue du Grand Faubourg. Et donc c'est intéressant de voir cette ambiance. Donc je crois que cet petit ouvrage sur les clochers de Chartres, dans le ciel de Chartres, montre aux Chartrains la richesse de leur patrimoine chrétiens dans la ville, et puis je suis sûr que les touristes auront plaisir à découvrir ces différents lieux de qualité patrimoniaux qui accompagnent un riche patrimoine de bâtiments remarquables que peut être l'hôtel Montesco, le palais de l'évêché, mais qui est aussi le musée des Beaux-Arts ou d'autres lieux, les archives, qui ont aussi été un lieu de séminaire. Beaucoup en fait des beaux lieux de Chartres ont eu une vocation, même si ce ne sont pas des clochers, mais à l'intérieur vous retrouvez des églises, des chapelles, que ce soit aux archives maintenant qui sont propriété du conseil départemental ou à l'ancien évêché. Donc vous voyez partout un peu cette présence d'un patrimoine exceptionnel et qui mérite l'attention et la protection.
Notre émission se termine. Merci, Monsieur Géroudet, de nous avoir fait vivre l'histoire de ces clochers, de ces églises. Amis auditeurs, je vous recommande ce livre, Clochers dans le ciel de Chartres, très documenté, agrémenté de nombreuses photos ou gravures. Il est édité au Cherche Midi, vendu au prix de 10 euros dans nos librairies. J'ai la joie de vous annoncer que Monsieur Charles Jobert, de notre association Église ouverte en Eure-et-Loire, donnera une conférence à Illier, jeudi 21 avril à 14h30 à la salle Jeanne d'Arc, sur le thème « Nombre et symboles dans nos églises ». Nos églises sont peuplées de symboles dont on ne connaît pas toujours la signification. La conférence donnée par Charles Jobert nous aidera à découvrir le sens des nombres et des signes qui représentent une réalité spirituelle cachée. Je vous rappelle, jeudi 21 avril à 14h30 à la salle Jeanne d'Arc à Illier. Et je vous invite également à notre Assemblée Générale, jeudi 12 mai à la Visitation à 9h30. Amis auditeurs, si vous voulez réécouter cette émission, elle sera disponible à compter de la semaine prochaine sur le site Radio Grand Ciel et très rapidement sur le site de l'association Église Ouverte en Eure-et-Loire. Nous nous retrouverons dans un mois pour une autre émission. Merci de votre fidélité. Et à bientôt, chers auditeurs. Thank you.